Jean-Jacques Romès, merci d'abord de participer à cette entrevue. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes banquier. Vous avez été banquier. Toutes les conditions sont réunies pour que vous attiriez l'attention, parce que les banquiers luxembourgeois nous intéressent toujours beaucoup. Et nous allons voir que vous méritez cet intérêt. Vous avez présidé le comité exécutif de l'Union des entreprises luxembourgeoises, le MEDEF luxembourgeois, jusqu'en 2018. Vous y siégez toujours. Vous avez été président du Conseil économique et social du Grand-Duché, dont vous êtes aujourd'hui vice-président. Vous êtes quelqu'un dont la voix compte au Grand-Duché et au-delà, une voix forte, lucide, qui sait faire preuve de beaucoup de distanciation et d'humour. Et on aura certainement l'occasion de le vérifier. Nous sommes très heureux de vous entendre. Alors, on va commencer par une première question qui s'impose et qui nous intéresse tous en Lorraine. Qu'est-ce qui explique le dynamisme économique luxembourgeois, ce dynamisme qui fascine tant les Lorrains, dans tous les sens du terme d'ailleurs?
Oui, je pense qu'il faut comprendre le Grand-Duché dans son ensemble et aussi dans son histoire. Et donc ce n'est pas un succès qui a été construit du jour au lendemain, mais et je ne vais pas parler de la sidérurgie luxembourgeoise, mais de façon plus générale, il faut voir que c'est un pays exigu, extrêmement petit, qui a toujours vécu de ce que d'autres sont venus, généralement avec leur capital et leurs idées, s'installer à Luxembourg pour, à partir du Luxembourg, vendre leurs produits ou leurs services. Donc, en fait, le Luxembourg n'ayant pas de marché propre, n'ayant pas de hinterland, n'ayant pas de réserve, n'ayant pas de matières premières, a toujours été dépendant d'un marché plus grand que le sien. Et c'est pour ça qu'il a, après le Zollverein, l'Union belgo-luxembourgeoise, l'ACK et l'Union européenne, donc il a toujours cherché à vendre ses produits et ses services au-delà de ses frontières. Et donc il s'est ouvert, alors que des grands pays ont une tendance à se reposer sur le marché intérieur assez grand pour vivre, mais il s'expose moins à la concurrence et à l'ouverture économique. Et c'est ça qui a fait que le Luxembourg a eu toujours la même recette, sidérurgie, RTL, Goodyear, évidemment les banques, les fonds d'investissement, tout cela a la même recette, servir à partir d'un territoire petit, un marché plus qui est grand. Et puis il y a évidemment l'élément culturel qui compte, parce qu'il est plus facile de servir l'Allemagne du Luxembourg que de le faire à partir de Lyon. Il est plus facile de servir la France à partir du Luxembourg que de le faire à partir de Hambourg. Ce sont des questions linguistique, culturel, qui facilite évidemment cette idée générale d'ouverture économique.
Alors vous dites souvent que c'est un modèle, que le modèle luxembourgeois est mal compris de ses voisins, mais mal compris parfois même de la population elle-même. C'est parce qu'il est si compliqué que ça?
Je ne pense pas que ce soit si compliqué que ça, mais évidemment, vous avez au Luxembourg une population luxembourgeoise qui, lorsqu'elle pense politique, pense d'une façon relativement nombriliste. Vous savez que nous avons essayé il y a quelques années à ouvrir l'électorat au moins aux résidents non nationaux. Cette idée a échoué, ce qui fait que la politique luxembourgeoise se déroule en luxembourgeois, sur RTL Luxembourg, à la Chambre des députés. À l'époque de Gassentonde, on y parlait français, maintenant on en parle luxembourgeois. Donc il y a un nombrilisme là qui fait que les luxembourgeois ne se rendent pas très bien compte de ce qu'ils sont un élément dans un grand ensemble, bien plus grand qu'eux. Cette conscience manque. Et cette conscience, elle est bien présente du côté des syndicats dont les membres viennent souvent de cette grande région. Elle est bien consciente du côté des entreprises qui, évidemment, accueillent leur main-d'œuvre à partir de cette grande région, mais elle n'est pas connue et elle est largement ignorée dans ce microcosme politique luxembourgeois. Et c'est pour ça que je dis que ce modèle-là, cette dimension-là, ce n'est pas la seule qui est ignorée par la politique luxembourgeoise, mais cette dimension est très souvent ignorée dans le débat politique quotidien.
Comment réagissent les luxembourgeois, j'ose pas dire de souche, parce que c'est une tonalité très négative, mais les luxembourgeois, les personnes de nationalité luxembourgeoise qui voient arriver sur leur sol tous les matins autant de frontaliers?
Ben, ça, c'est une question, ça a été dit, c'est souvent une question d'embouteillage, n'est-ce pas? D'où viennent ces gens-là? Il y en a beaucoup. Conduisent-ils leur voiture avec la même discipline que nous, luxembourgeois, etc.? Les Belges ont-ils un permis de conduire ou non, etc.? Oui. Donc, ça se passe à un niveau... je dirais quand même indigne, fondamentalement, parce qu'il n'y a pas de conscience. Les gens n'ont pas à l'esprit les chiffres qui sont derrière tout ça, c'est-à-dire que notre économie vit pour moitié au moins de ce phénomène. Et donc cette conscience manque, et je le regrette, et c'est pour ça que j'avais, en prenant la présidence du Conseil économique et social, j'avais dit nous allons essayer de faire de ce sujet le sujet de ma présidence. Et c'est pour ça que nous avons fait depuis, je viens de le contrôler, depuis janvier 2020, nous avons fait 8 avis qui, de près, comme celui-là, ou d'un peu plus loin, comme d'autres, touchent à cette question transfrontalière pour justement rendre les gens conscients.
Alors, vous, par contre, il n'y a pas de mouvement populiste au Luxembourg. Bon, il y a peut-être des expressions comme ça un peu partout, mais il n'y a pas de Front National, pour parler clair. C'est-à-dire que globalement, ça reste un pays très ouvert.
Il y a du populisme de toutes les couleurs un peu partout, et dans chaque parti, il y a toujours une frange comme ça. On a aussi un parti un peu plus populiste que les autres, un peu plus à droite que les autres. Nous avons tout cela. C'est que nous n'avons pas un ressentiment contre nos voisins. Cela, certainement pas.
On ne le sent pas, ni dans le débat public.
Les Luxembourgeois ont eu pendant quelques dizaines d'années un ressentiment contre les Allemands pour des raisons très différentes. Mais tout ça s'estompe aussi. Personne au Luxembourg ne parle des salles belges, voilà. Allemands, français.
Ça ne vient pas.
Ce n'est pas dans notre débat.
On me dit aussi que le pays est de plus en plus francophile et puis francophone que germanophone.
Oui, alors là, ça peut vous sembler curieux à partir d'ici, mais le pays n'est pas homogène à cet égard. Donc vous allez prendre l'essence du côté du Zeningaberg, vous parlerez allemand en payant votre facture. Donc vous avez vraiment une scission. Moi, j'habite par exemple à l'est du pays. On y parle beaucoup plus fréquemment l'allemand que dans les régions qui sont plus proches de la Belgique ou de la France.
Sud, oui.
Donc je crois que là, il y a une prépondérance française par les volumes, n'est-ce pas? La population, la France est beaucoup plus densément peuplée que la Belgique, évidemment, mais vous avez tout ce côté francophone et le côté allemand est moins densément peuplé aussi, sauf peut-être la Sarre, mais enfin, ça se remarque. Donc, oui, il y a une tendance vers le français, mais enfin, bon, elle n'est pas envahissante.
Alors, il y a un autre débat qui est très prégnant au Luxembourg, c'est le débat sur la démographie, sur la poursuite de la démographie luxembourgeoise. Et certains luxembourgeois disent qu'on peut aller jusqu'à 1 million d'habitants sur le territoire national. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que
c'est possible.
Par rapport à d'autres. C'est parfaitement possible, n'est-ce pas? On prend toujours la Sarre comme exemple. La Sarre a 1 million d'habitants et elle a le même territoire.
La même superficie.
Donc on pourrait le faire. Maintenant, est-ce que politiquement, c'est quelque chose qui est facile à faire? Je ne sais pas. En tout cas, la direction que nous prenons depuis quelques années fait que ça se passe sans que les gens décident que ça se passe.
Oui.
Et moi, ce que je regrette, c'est que ça se passe sans que la politique avertisse de ce qu'il faut faire si on continue ainsi. Donc, ce qui fait partie du modèle luxembourgeois, et une des choses que les Luxembourgeois ignorent, c'est que notre croissance, c'est vraiment une croissance en main-d'œuvre que nous avons. Donc, nous avons peu de croissance de productivité, nous avons essentiellement une croissance de main-d'œuvre. Et cette croissance de main-d'œuvre, elle est de plus en plus frontalière. Et donc, si nous allons vers une croissance plus grande, la question est, allons-nous les amener tous les matins ou allons-nous les loger dans le pays? Donc, nous sommes mobilité ou logement. Les deux problèmes phares du Grand-Duché qui ne sont pas débattus au Luxembourg, oui, dans ce cadre-là dans lequel il faudrait les débattre. Et là, à mon sens, il y a un très, très grand problème. Le Luxembourg aurait dû, en se rendant compte qu'il avait besoin de cette croissance aussi pour un certain nombre d'autres raisons qui sont le financement de l'État et de la sécurité sociale. Je pourrais en parler si vous voulez, mais c'est un autre sujet. Mais nous devons continuer à avoir cette croissance. Or, si nous devons continuer à l'avoir, il faut continuer à amener du monde. Il faut le loger. Et nous aurions dû absolument investir dans les infrastructures nécessaires à cela. Investir donc dans le logement à Luxembourg, ce que nous n'avons pas fait assez, investir dans la mobilité, ce que nous n'avons pas fait assez, et investir dans la coopération transfrontalière, ce que nous n'avons pas fait assez. Oui. Et donc, c'est pour ça que j'ai poussé à ce qu'on fasse des avis comme celui que M. Hein vient de vous prendre.
On va venir. Il y a quelque chose que vous aviez dit un jour qui m'avait beaucoup frappé. Vous disiez, on est rentré dans une logique qu'on ne maîtrise plus complètement au niveau luxembourgeois, avec cet accroissement permanent des salariés. Ben, c'est ce que vous venez un peu de dire, là.
Oui, c'est ce que je viens de dire. Et bon, on peut dire que c'est un relatif bonheur, évidemment, parce que on préfère être pris dans une spirale de croissance que dans une spirale de décroissance. Il faut quand même pas, se plaindre non plus de mauvaises alouettes. Donc, je crois que c'est une bonne chose, mais est-ce que la politique peut vraiment freiner la croissance de façon précise ou ne risque-t-elle pas de causer une catastrophe économique, c'est-à-dire un renversement des choses? Là, c'est quelque chose où je crois que la politique a relativement moins de manœuvres qu'elle ne pense.
Oui. L'année prochaine, il y a des élections au Luxembourg. Est-ce que ce débat-là, il va émerger? Est-ce qu'il va y avoir des débats entre les différentes composantes de la coalition ou entre les différents partis sur ce que vous venez de dire, toutes les choses que vous venez de mettre sur la table?
Le débat ne va pas porter justement sur la grande région, non. Le débat va porter sur ce qu'on appelle la justice fiscale, sur le logement. Ces deux sujets vont être extrêmement importants, mais on va moins les placer dans ce cadre de grande région que je ne l'aurais voulu.
Et vous le regrettez ?
Ah oui, certainement. Je dois dire que le niveau de conscience des politiques est évidemment plus élevé que celui du débat public. Donc il faut... Ils ne sont quand même pas tous bêtes non plus. Hein. Donc je ne voudrais pas leur manquer de respect à cet égard. Mais c'est vrai qu'on n'ouvre pas le débat, on ne dit pas aux gens qu'il y a là des chances et des contraintes telles qu'elles viennent d'être décrites et qui font partie de décisions politiques fondamentales qui ont aussi un impact sur l'économie du pays, mais aussi sur nos finances publiques, etc., et sur notre avenir. On ne dit pas à quel point cela est vrai. Et une des raisons est que, comme on le sait sans doute ici, les Luxembourgeois sont très attirés par la fonction publique luxembourgeoise, et le privé, c'est-à-dire les entreprises, fonctionnent avec des non-nationaux, je dirais comme ça, qui soient frontaliers ou qui soient résidents.
On va terminer par une question provocatrice, mais vous la citez dans les textes que vous avez écrits. Quand le Premier ministre estime qu'il ne doit pas financer les illuminations des villes transfrontalières, il a raison. Je le dis parce que vous en parlez. On coupera peut-être ça.
Il peut avoir raison sur ce petit exemple-là, mais citer ce petit exemple-là et en faire une boutade pour la jeter à la figure des gens,
c'est ce que vous avez
je
dit,
trouve
oui.
que ce n'est pas quelque chose... Enfin, il y a tellement de choses à dire avant de faire cette observation-là que je n'ai pas entendu. C'est pour ça qu'elle ne m'a pas plu, cette observation.
Voilà. En résumé, puis on terminera par là. L'avenir est la coopération, quand même. La coopération vous paraît indispensable entre le Luxembourg et ses voisins.
Ah oui, ça, je crois que c'est absolument indispensable. Il faut trouver une gouvernance pour ça. Avec tout ce que nous venons de travailler, je suis de plus en plus convaincu qu'il n'est pas possible de faire ça en grand. Il faut le faire de façon bilatérale. Je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner autrement. C'est trop compliqué. Déjà, la gouvernance au niveau bilatéral est extrêmement complexe. Pour penser à ce qui a été appelé le Grand Luxembourg, je pense que c'est une terminologie que je n'aime pas, mais surtout aussi, elle n'aide pas, parce qu'on ne va pas harmoniser ce coin de terre-là avec celui-là. Mmh. Donc, qu'on n'essaye pas. Déjà, nous avons un exemple concret, n'est-ce pas? Nous essayons d'harmoniser les conditions du télétravail par rapport aux trois pays qui nous entourent. C'est assez difficile parce que ces pays-là, ils n'ont pas que nous. Ils ont d'autres voisins aussi avec lesquels ils ont des échanges. Donc vous voyez à quel point avoir l'ambition territoriale là-dedans peut être nocif pour arriver à des projets concrets. Parce que c'est ça qu'il nous faut. À la fin, il faut du concret.
Merci Jean-Luc Gomez. À bientôt.
Merci.